Chapitre 6, Consécration. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaëm et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Avant d'être envoyés comme missionnaires au monde païen, ces apôtres furent solennellement consacrés à Dieu par le jeûne, la prière et l'imposition des mains. Ainsi, ils furent autorisés par l'Église, non seulement à enseigner la vérité, mais à baptiser et à organiser des communautés. Ils reçurent donc une entière autorité ecclésiastique. L'Église chrétienne, à cette époque, entrait dans une période importante de son histoire. Il fallait dès lors proclamer avec vigueur le message évangélique parmi les gentils. Le résultat en serait pour l'Église un renforcement dû à une grande moisson d'âmes. Les apôtres qui avaient été chargés de la direction de cette œuvre allaient être exposés à la suspicion, aux préjugés et à la jalousie. Comme ils enseigneraient que le mur de séparation, qui avait si longtemps existé entre les Juifs et les gentils était renversé, ils seraient naturellement accusés d'hérésie. Un bon nombre de Juifs croyants et zélés leur demanderaient d'où ils tenaient leur autorité de ministre de l'Évangile. Dieu prévit les difficultés que ses serviteurs rencontreraient et pour que leur apostolat ne pût être récusé, il indiqua à l'Église qu'il fallait publiquement les mettre à part pour le ministère. Leur consécration fut un témoignage évident de la désignation divine de Paul et de Barnabas pour la proclamation aux gentils de la bonne nouvelle de l'Évangile. Les deux hommes avaient déjà reçu leur vocation de Dieu lui-même. La cérémonie de l'imposition des mains ne leur apporta pas une grâce nouvelle et ne les qualifia pas davantage pour leur mission. C'était une forme destinée à faire comprendre qu'ils étaient désignés pour une fonction particulière et cela leur conférait l'autorité nécessaire. Ainsi, l'Église mettait son sceau sur l'œuvre qu'ils allaient entreprendre pour Dieu. Pour les Juifs, ce rite avait une grande signification. Quand un père juif bénissait ses enfants, il plaçait ses mains sur leur tête. Quand un animal était voué au sacrifice, la main du prêtre se posait aussi sur la tête de la victime. Et quand les ministres de l'église d'Antioche mirent leurs mains sur les têtes de Paul et Barnabas, ils demandèrent par là à Dieu de répandre sa bénédiction sur les apôtres qu'ils s'étaient choisis, en les consacrant à l'œuvre particulière à laquelle ils avaient été appelés. Ultérieurement, le rite de la consécration par l'imposition des mains fut fort mal interprété. On accorda une importance injustifiable à cet acte en considérant qu'une puissance descendait aussitôt sur ceux à qui on imposait les mains, et qui étaient par là immédiatement qualifiés pour n'importe quelle tâche dans le ministère. Mais dans la consécration de ces deux apôtres, on ne nous dit en aucune façon qu'une vertu quelconque leur fut communiquée par la simple imposition des mains. On nous relate simplement la cérémonie de leur ordination et le soutien qu'elle apporta à leur œuvre future. Les circonstances qui entourent cette mise à part de Paul et Barnabas par le Saint-Esprit pour un travail déterminé montrent clairement que le Seigneur agit par l'intermédiaire des hommes dans l'organisation de son Église. Quelques années auparavant, lorsque le plan divin qui le concernait fut révélé à Paul par le Sauveur lui-même, il fut immédiatement mis en rapport avec les membres de la jeune communauté de Damas. D'ailleurs, l'église locale reçut des éclaircissements sur l'expérience personnelle du pharisien converti. Et maintenant, alors que la mission confiée à Paul naguère allait être plus pleinement réalisée, le Saint-Esprit, voulant témoigner que Paul était l'instrument choisi par Dieu pour apporter l'évangile aux gentils, remettait à l'église le soin de le consacrer, lui et son compagnon de travail. Tandis que les conducteurs de l'église d'Antioche servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dieu a fait de son église un canal par lequel il communique au monde ses desseins et sa volonté. Il ne donne pas à l'un de ses serviteurs une expérience indépendante ou contraire à celle de l'église elle-même. Il ne donne pas davantage à un seul homme la connaissance de sa volonté pour l'Église tout entière, laissant dans les ténèbres l'Église, qui est le corps du Christ. Dans sa providence, Il place ses serviteurs en rapport étroit avec son Église, de sorte qu'ils puissent avoir moins de confiance en eux-mêmes et davantage dans les autres, qu'il conduit afin que son œuvre progresse. Il y a toujours eu dans l'Église des gens qui ont eu un penchant pour l'indépendance. Ils semblent incapables de comprendre que cet esprit d'indépendance est susceptible de conduire l'homme à se confier exagérément en lui et en son propre jugement plutôt que de respecter les conseils et de tenir l'opinion de ses frères en haute estime, particulièrement de ceux qui remplissent les fonctions que Dieu leur a confiées dans la direction de son peuple. Dieu a donné à son Église l'autorité et la puissance, que personne n'est en droit de négliger et de mépriser, de peur de mépriser en même temps la voix de Dieu. Ceux qui sont enclins à considérer leur propre jugement comme le meilleur sont dans un danger très grave. Satan s'efforce tout particulièrement de les séparer ainsi des artisans grâce auxquels Dieu veut édifier son Église sur la terre. Les négliger ou mépriser leurs avis, c'est rejeter les instruments qu'il a choisis pour aider, encourager et diriger son peuple. Si quelqu'un travaille dans l'œuvre du Seigneur et pense que la lumière ne doit lui venir que directement de Dieu, il se place dans une situation dans laquelle il risque d'être trompé par l'ennemi et mis en déroute. Le Seigneur, dans sa sagesse, a voulu que par le moyen d'une étroite fraternité entre les chrétiens soient unis aux chrétiens, et l'Église à l'Église. Ainsi, l'élément humain pourra coopérer avec l'élément divin. Tout instrument sera subordonné au Saint-Esprit et tous les croyants seront unis dans une œuvre bien organisée et bien dirigée qui consistera à faire connaître au monde l'heureuse nouvelle de la grâce de Dieu. Paul considéra que la cérémonie de sa consécration marquait le commencement d'une nouvelle période fort importante de sa vie. C'est de ce moment-là qu'il fit plus tard dater le début de son apostolat dans l'Église chrétienne. C'est lors de l'ordination des 12 que fut fait le premier pas dans l'organisation de l'Église qui devait être chargée, après le départ du Christ, d'accomplir son œuvre sur la terre. Il nous est dit que Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher. Dieu et les anges furent remplis de joie en contemplant cette scène. Le Père savait que, grâce à ces hommes, la lumière du ciel brillerait sur la terre et que les paroles du témoignage qu'il rendrait à son Fils auraient leur écho de génération en génération, jusqu'à la fin des temps. Les disciples devaient aller, en témoins du Christ, déclarer au monde ce qu'ils avaient vu et entendu de lui. Leur tâche était la plus importante qui ait jamais été confiée à des êtres humains, et elle prend rang immédiatement après celle du Christ lui-même. Ils devaient être ouvriers avec Dieu pour le salut des hommes. De même que, dans l'Ancien Testament, les 12 patriarches étaient les représentants d'Israël, ainsi les 12 apôtres sont les représentants de l'Église évangélique.